Les rendez-vous avec Alexandra. Jacqueline Hirsch, présidente de l'association Alexandra David-Nel. C'est tout de suite.
Souvenez-vous que la semaine dernière, nous avions laissé Alexandra David-Nel au Tibet, tandis qu'elle en était chassée. Mais elle est aussi interdite de séjour au Sikkim. Les Anglais occupant ces régions sont impitoyables. Elle prend donc le chemin du retour, à son grand regret, vers la Chine, et décide ensuite de partir au Japon. Donc elle repasse par son ermitage à 4000 mètres, et elle écrit à Philippe, au mois d'août 1916. Mon cher, j'ai eu, dans ces jours derniers passés, dans les solitudes tibétaines, l'impression quelque peu mélancolique que j'avais tourné le dernier feuillet d'une jeunesse tardive et fort prolongée, que j'avais vécu ma dernière aventure. Le Japon, ce sera un pays sage, paisible, reposant, civilisé, avec des chemins de fer, des routes, des ponts sur les rivières, des hôtels, des tramways. Là seront impossibles les randonnées casse-cou des steppes et des montagnes solitaires, les nuits glacées sous la tente, les soirs de neige, où le feu de bouse de yak ne prend pas, et où l'on dîne d'une boîte de conserve, d'un verre d'eau glacée et boueuse emprunté au torrent voisin. Cela a son charme, mais pour vieillir en un tel pays, il faut y être né, ou bien braver la raison courante. Il me semble qu'en quittant les Himalayas, je m'achemine vers la petite vieille à lunettes d'or ou d'argent que tu as vue en rêve. Je savais que le moment viendrait où je descendrai la montagne, où je regarderai ma bicoque pour la dernière fois, comme l'autre jour j'ai regardé pour la dernière fois les montagnes bleuissantes du Trans-Himalaya et la terre tibétaine. Les choses sont comme le sable fin qu'on s'efforce de garder, de serrer dans sa main, comme l'eau qu'on veut saisir entre les doigts, aussi crispé qu'il soit, sable et eau coulent, coulent. Tout passe, tout fuit. Impermanence partout, a dit le Bouddha. Le monde est ainsi fait, d'impermanence, de perpétuel changement. Croirais-tu que ce Japon futur m'effraie un peu, moi, la voyageuse aguerrie? Je ne sais pas le japonais. Oh, je baragouinerai dans 6 mois, ce n'est pas si sorcier. On est parfaitement bête et incapable en face de gens qui ne vous entendent pas et qu'on ne comprend pas. J'ai un peu peur que mes yeux habitués à la majesté des Himalayas ne trouvent pas grand charme au petit paysage du Japon, mais ils s'y feront sans doute. Et les études à poursuivre en ce pays sont assez captivantes pour donner du charme à un séjour, même dans un cadre petit. Les écritures sanscrites du Mahayana, nées dans l'Inde, sont mortes dans ce pays, mais fleurissent à l'étranger en 3 modes différents, en 3 interprétations issues de cerveaux différents, en Chine, au Japon, au Tibet. Il y a des rapprochements curieux à faire, des divergences intéressantes à noter. Mais voilà, Alexandra a de la nostalgie de quitter les altitudes et la solitude qu'elle aimait. Il lui fait bon vivre là, vraiment seule, écrit-elle. Elle est très contrariée qu'on lui ait gâté son séjour, et surtout que l'on soit entré dans son ermitage pendant son voyage au Tibet et qu'on l'ait pillé. Quelques mois plus tard, en janvier 1917, on la retrouve à Darjeeling, puis en route pour Singapour. Elle visite Penang et prend un paquebot pour le Cap Saint-Jacques en Indochine. Elle observe le monde, comme à son habitude, et dans une lettre à Philippe, son mari, elle lui fait part de son indignation et par là même, c'est une véritable leçon de politique, d'histoire, d'humanité que représente cette lettre que je vous lis. Et ces gens-là dansent le tango le soir. Là, elle est sur le paquebot. Hier, je me suis imposé la tâche de rester au salon avec eux pour les étudier de plus près. Pauvres êtres, pauvres cervelles. Mais ce n'est guère le temps de danser quand les boches sont chez nous. Vois-tu, mon ami, nous nous distrayons de la guerre, nous pensons à autre chose, et c'est cela la plus grande cause de notre faiblesse. L'effort physique de quelques-uns ne suffit pas. Il faut derrière une tenace, une inlassable concentration de l'esprit de toute la nation. Les Allemands l'ont eu, eux, pendant des années. Toutes les pensées de tous chez eux allaient vers l'Allemagne, au-dessus de tout. S'ils dansent aujourd'hui le tango à Berlin ou ailleurs, ce doit être avec la mentalité d'un Sioux dansant la danse du scalp. C'est ainsi qu'on trépignera sur les cadavres des vaincus, sur les ruines des villes ennemies. C'est affreux. Mais c'est cet esprit-là qui a mené les Huns, les Visigoths, toutes les hordes de l'Asie qui ont réduit à néant la gloire romaine. Il faut savoir où l'on va, savoir ce que l'on veut, et si l'on veut posséder le monde ou le rejeter. Quand le fils Sarrault parlait de ces insectes dont il se nourrit, l'homme qui est devant moi trouve son plaisir à détruire l'oiseau. L'Allemand se réjouit en massacrant des Français. Est-ce que ces Français n'ont pas connu des atrocités dans cet Annam, ce Tonkin où nous abordons? Les pionniers belges au Congo ont acheté des petites esclaves en guise d'appât pour la chasse aux tigres. Et les ont attachées sur des fourmilières pour que leurs cris de douleur attirent le fauve. Et ils ont coupé par centaines les mains des Noirs qui refusaient le service du portage. Aujourd'hui, les Boches ont coupé les mains des enfants belges. Les Anglais ont martyrisé les Boers. Les Boers avaient martyrisé les Noirs du Sud-Africain. C'est l'universelle horreur et l'universelle inconscience. Il n'y a là ni humanité, ni bien, ni rien de ce genre. Rien que le déchaînement des appétits qui sont engendrés par l'illusion de la réalité du moi et qui gravitent autour de lui. Il y a l'aveugle désir d'être, de durer, contraire à la loi immuable qui est l'impermanence de tout. Tous ces gens autour de moi me produisent l'effet d'ortie irritante. Leur agitation désordonnée est folle mais pénible. J'ai hâte de retrouver des montagnes, la solitude, la paix. Le voyage en paquebot l'amène donc au Japon, où elle arrive précisément à Kobe le 6 février 1917. Elle écrit que l'arrivée de la mer intérieure est tout simplement féerique. Et deux jours après, elle prend le train pour Kyoto. Elle y est accueillie par un professeur de l'université bouddhiste qui lui procure un logement dans un monastère. Elle part visiter un temple, et de celui-ci, elle grimpe à un autre. Prend un chemin de pèlerinage, gagne une sorte d'hôtel rustique où siège un Bouddha, sous un très humble toit de chaume. Puis elle monte encore plus haut, et de là, elle admire la vue très complète de ce roi des montagnes du Japon, avec sa pèlerine de neige sur son dos rond, le fameux Mont Fuji. Et elle écrit, « Pauvre géant, pour qui a hanté les sommets himalayens ?» Et dans la direction opposée, la vue des montagnes s'étageant jusqu'au bord de l'océan, par progression descendante, était vraiment superbe. L'excursion aller-retour m'a pris 6 heures. Le vent soufflait très violent, et ce soir, il s'est déchaîné en tempête. Le Pacifique n'a plus rien de pacifique. Le lendemain, elle repart à Tokyo, où des amis l'attendent. Et là, elle raconte à Philippe. Hier, j'ai été avec des amis au théâtre impérial. La représentation commence à 4 heures, on dîne pendant l'entracte, et cela se prolonge jusqu'à 10 heures. Costumes merveilleux, joli décor, très simple, mais extrêmement frais. Des danseurs extraordinaires. Et, pendant les pièces dramatiques, une espèce de chœur, à l'instar des Grecs, qui accompagne l'action de ses réflexions et de glapissements, gloussements, sanglots, rugissements tout à fait curieux. Bref, je suis enchantée de mon séjour à Tokyo, c'est-à-dire des gens que j'y ai rencontrés, la plupart appartenant d'ailleurs à l'université. Puis, elle évoque Tolstoï. Tolstoï, il voit les choses de façon différente et part désappointé. Il n'a pas compris les Japonais, ou les Japonais ne l'ont pas compris. Moi, je prends les Japonais pour Japonais. Pourquoi leur demander d'être parfaits quand nous ne le sommes pas nous-mêmes, ou vouloir qu'ils soient précisément affichés des mêmes imperfections que nous? Tolstoï fils ne sait pas s'asseoir sur ses talons et se prosterner une dizaine de fois de suite devant un autre qui, suivant la coutume ancestrale, se confond lui-même en prosternation. Oh, je ne dis pas que ce ne soit pas fastidieux, mais si l'intention de ceux qui me reçoivent est toute bienveillante et hospitalière, pourquoi me poserais-je en critique de leurs usages? Cela ne me regarde pas. Ils ne me demandent pas de les adopter de façon définitive, mais il est poli de s'y conformer pour un moment. Elle ajoute quand même. Tout de même, s'asseoir à la façon japonaise m'est cruel. J'esquive autant que possible et m'accroupis à la mode birmane qui m'est aisée. La position hindoue n'est pas admise ici dans le monde. Elle n'est usitée que pour les exercices religieux. De chaise, il n'y en a pas. Donc, il faut se faire une raison. Mais quand même, en mars 1917, Alexandra commence à voir la nostalgie des altitudes et du silence. Elle va partir quelques jours, voir Naha, près de Kyoto, et monte au mont Koya, qui est un vaste monastère comprenant environ 300 temples, situé sur un vaste plateau au sommet d'une montagne, à 800 mètres. Elle écrit sa tristesse, car les Himalayas lui manquent terriblement. J'ai besoin de grand air et de repos. Je me sens fatiguée de mes déambulations parmi des villes depuis que j'ai quitté les Himalayas. À vrai dire, j'ai le mal du pays pour un pays qui n'est pas le mien. Les steppes, les solitudes, les neiges éternelles et le grand ciel clair de là-haut me hantent. Les heures difficiles, la faim, le froid, le vent qui me tailladait la figure, me laissaient les lèvres tuméfiées, énormes, sanglantes, niquant dans la neige, dormant dans la boue glacée, et les haltes parmi la population crasseuse jusqu'à l'invraisemblance, la cupidité des lamas et des villageois, tout cela m'importe peu. Ces misères passaient vite, et l'on restait perpétuellement immergé dans le silence, où seul le vent chantait. Dans les solitudes presque vides, même de vie végétale, les chaos de roches fantastiques, les pics vertigineux et les horizons de lumière aveuglante, pays qui semble appartenir à un autre monde, pays de titans ou de dieux, je reste ensorcelée. J'ai été voir là-haut, près des glaciers himalayens, des paysages que peu dieux humains ont contemplés. C'était dangereux peut-être, et comme dans les fables antique, les déités se vengent. Mais de quoi se vengent-elles? De mon audace d'avoir troublé leur demeure ou de mon abandon après avoir conquis une place auprès d'eux? Je n'en sais rien. Pour le moment, je ne sais que ma nostalgie. Le Japon m'a déçu. Sans doute tout m'aurait déçu dans mon état d'esprit. Je ne nie pas les sites charmants. Je t'ai dit ceux d'Atami, et durant mon retour ici en chemin de fer, j'ai traversé des régions montagneuses ravissantes. Mais on peut en voir d'à peu près semblables dans les Cévennes, les Pyrénées ou les Alpes, tandis que les Himalayas sont uniques. Et puis le Japon est infiniment trop peuplé pour moi. Dès que l'on commence par retrouver son calme à la vue d'un beau paysage, pan. Au détour du chemin, on tombe sur un village ou sur une usine, ou sur n'importe quoi, fourmillant d'humains affairés et bruyants. Or, selon une opinion que je nourris depuis mon jeune âge, les hommes gâchent la nature. Et ainsi en est-il pour les points de vue. Que l'on m'apporte de très loin mon riz et mes patates, et que je puisse avoir devant les yeux la jungle délicieuse et merveilleuse, pleine de plantes libres, de fleurettes indépendantes, d'arbres aux branches capricieuses, ayant une individualité propre, vivant leur vie, puisque eux ne sont point philosophes, et croient encore les pauvres innocents, que nous avons une vie et une personne propre qui ne sont qu'à nous-mêmes. Mais toutes ces dissertations ne conduisent à rien. Le Japon ne m'enchante pas, uniquement parce qu'il est trop peuplé et parce qu'il manque de lumière, du moins en hiver. Une chose charmante, par exemple, au Japon, ce sont les gens. J'en ai rencontré des tas, tous plus aimables les uns que les autres, dans tous les rangs de la société. Évidemment, les pauvres, les domestiques, les traîneurs de pousse-pousse aiment à recevoir des gratifications, mais ils ne sont pas exigeants, comme les hindous ou les tibétains, et se rendent réellement utiles, même après avoir touché leur présent. Ils ne marchandent pas leur aide, comme cela se fait dans l'Inde, et plus encore en Birmanie et au Tibet. Il y a des Européens et des Américains qui se plaignent qu'on les regarde en riant dans la rue. Cela tient à ce qu'ils sont généralement de taille élevée, mais moi qui suis petite et qui ai les cheveux foncés, je n'excite pas un tel amusement sur mon passage. Parfois, les enfants me crient bonjour ou me font une révérence, mais c'est sans méchanceté aucune. Et plutôt, façon d'espièglerie gentille. Et si je les appelle ou en prends un par la main, ils se comportent tout de suite avec une gravité polie de grandes personnes, des plus comiques chez les marmots. À Kyoto et se plaint encore du climat japonais. Mais je ne doute pas qu'il y ait de beaux jours au Japon, mais il y en a trop de pluvieux et de froid. En somme, la température est humide et le ciel sans lumière, on se meut dans la grisaille comme en Angleterre. Les gens sont vêtus de couleurs neutres, sombres, les choses sont dans les mêmes teintes effacées, cela sent trop l'Occident septentrional pour moi. Les gens, la plupart, et les coutumes sont aussi infiniment trop civilisées, trop apprivoisées pour quelqu'un qui s'est accoutumé à la vie de la jungle, qui en a eu l'instinct inné. Le nombre des choses qu'on ne doit pas faire est accablant. Dans l'Inde, c'est déjà insupportable d'avoir à ôter ses souliers au seuil des gens que l'on va voir. Mais il fait chaud, on chemine en pantoufles, et du moins, on a toute liberté de renoncer à ce cérémonial dans sa propre demeure. Au Japon, où il pleut et où la boue dépasse toute imagination dans les rues toutes non pavées, il faut déboutonner ou délacer ses bottines 10 fois dans le cours d'une après-midi. Et ça se traîne à la même besogne chaque fois que l'on passe de sa chambre au jardin, ou bien de la cuisine au water closet, parce que les nappes rembourrées fixées à demeure ne doivent être ni salies ni usées. Et puis, il faut laver, frotter, brosser, rendre une sorte de culte à toute chose durant toute la journée. Il faut un esclave pour toute cette besogne, et mon jeune homme tibétain, qui est un fourrier d'aine, qui se conduit très bien, n'est cependant pas d'humeur à jouer la servante hollandaise. Il veut du temps libre pour étudier et il a parfaitement raison. Bref, Je ne vois pas ce qu'il y a à gagner au Japon pour un Européen épris de l'Orient. Une visite à ce pays est des plus intéressantes, et je ne regrette certes pas la mienne si j'ai peu que j'ai communiqué avec quelques érudits. Mon ignorance de la langue est un grand obstacle. J'ai eu des coups d'œil très intéressants sur la mentalité des intellectuels japonais. Mon seul reproche au Japon est qu'il est trop semblable aux pays européens, trop civilisé. Je crois que beaucoup de mes amis japonais, qui sont, je le répète encore, les gens les plus aimables que l'on puisse rencontrer, prendront cela plutôt pour un compliment. Et puis, elle évoque la lettre de Chine. Il lui dit avec justesse que l'âge s'avance pour elle et que les longs projets commencent à devenir peu sages. Elle lui répond, pour terminer mon étude, il me faudrait un séjour de quelque durée au Japon, un autre parmi les ermites coréens, un autre en Chine, d'où on m'écrit des lettres pressantes pour me demander de venir. Et il faudrait pouvoir me perfectionner en tibétain au grand monastère lamaïste de Pékin et lire avec un lama savant la partie tantrique du Kanjur, c'est-à-dire les textes canoniques tibétains qui relatent les paroles du Bouddha. C'est trop, il faut faire un choix. D'autant que mon tempérament de nomade me facilite peu la vie sédentaire. Alors cela, nous l'avions, je crois, mais également Philippe Nel. Je vous rappelle que, au départ, Alexandra disait partir pour quelques mois, voire une année. Il se plaint de la solitude ressentie par l'absence de sa femme depuis 6 années qu'elle est partie. Combien est grande son indulgence et sans nul doute son affection, son admiration. Dans les lettres d'Alexandra, il comprend qu'elle compte bien continuer encore, car, d'une part, il sait qu'elle est avide de connaissances, et d'autre part, comme elle l'écrit, la vie sédentaire ne lui convient pas. Il continue donc à l'aider. Et dans la lettre du 31 octobre 1917, alors qu'elle était à Pékin, Alexandra montre enfin une forme d'émotion devant la générosité de Philippe, son affection et son intelligence, mais sans s'attarder quand même, évoque plus intéressant ses nouveaux projets. Pékin, le 31 octobre 1917. J'ai trouvé hier à la poste 2 lettres de toi datées du 1er du 8 juillet, que le professeur Suzuki me renvoie du Japon. Merci pour toutes deux, elles sont bonnes et affectueuses et intelligentes au-delà de toute expression. J'ai été vraiment émue en les lisant. L'être passablement singulier que je suis ne pouvait rêver un mari plus adéquat en sa complète dissemblance avec moi que tu l'es. Ne te fâche pas, Nouchi, si je te le dis, mais combien tu es changé. Tu as fait comme les vins qui s'améliorent en vieillissant. De penser que tant de bonté et de sentiments délicats se trouvaient à l'état latent en ton soi, des jours de Tunisie me confond, mais il est inutile de ratiociner sur cela, et je t'envoie tout bonnement et tout simplement mes aimantes pensées. Comme tu l'as su, j'ai reçu ton chèque 4 mois après que tu as versé les fonds à Marseille, mais il est bien arrivé, il était temps, je te l'assure. Je t'ai dit mon désir d'aller en Mongolie, et aussi que j'avais renoncé à me rendre maintenant à Urga, mais voici que du nouveau s'est produit. J'ai rendu visite à notre ministre par intérim, le comte de Marcel, qui s'est montré fort aimable, mais n'entend rien au sujet de mes recherches. Par le ministre des Affaires étrangères chinois, j'ai donc été mise en relation avec un certain prince Kung, haut fonctionnaire à la tête du bureau spécial des affaires tibétaines et mongoles. Notre entrevue a été aussi courtoise que possible, mais le fonctionnaire est tombé de son haut d'entendre que je m'occupais du lamaïsme et parlais tibétain. Cela lui a paru énorme, extravagant. Il parle parfaitement tibétain et nous avons pu nous entretenir sans interprète. Le résultat de cette entrevue a été de me confirmer ce que je savais déjà, qu'il n'y avait plus pour le moment à Pékin le moindre lama érudit. Voilà mes projets, encore une fois bouleversés. Mais qu'est-ce qu'on est tôt de s'en faire? Mon nom religieux tibétain est Yishi Tomme, qui veut dire lampe de sagesse. Moi, ce n'est pas moi, c'est mon lama apparent qui l'a choisi. Je n'aurais point osé cette grande éloquence orientale. Enfin, prends tous ces détails en note en carnet et ils peuvent servir. Lorsqu'Alexandra évoque la fin de ses pérégrinations, ça lui apparaît comme une sorte de mise à la retraite et d'entrée dans la terne grisaille de l'antichambre funèbre. Elle écrit « Je pourrais continuer ma vie d'écrivain, de conférencier, sans doute, mais l'idée du « jamais plus » entrera en moi. Jamais plus se retrouver par les routes. Jamais plus connaître les chevauchées à travers des pays presque inconnus du monde civilisé. Jamais plus parce que l'âge est là, qui raidit, ankylose, rend l'activité difficile, et parce que aussi, sans doute, la dépense ne peut plus être supportée. Alors, à l'idée qu'une barrière impossible à jamais franchir encore s'interposera entre la vie et moi, un frisson de terreur me saisit. Je sens que ce sera la fin de tout, et le cœur me manque. J'ai vécu, vois-tu, après mon premier voyage en Orient, les années qui suivirent furent hypnotisées par le souvenir de Ceylan, de l'Inde et de la Nam. En somme, quand je récapitule, ces années de voyage, en tout une période de moins de 10 ans, c'est pas fini d'ailleurs, auront composé toute ma vie, car je ne compte pour vie que le temps où quelqu'un agit vraiment selon son désir. Marche comme ton cœur te mène, et selon le regard de tes yeux, comme dit mon vieil ami l'Ecclésiaste. Mais comme vous le savez, Alexandra va continuer à marcher selon son cœur. Pour continuer notre récit, nous nous retrouvons à la rentrée de janvier, le mardi 5 janvier. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année, qu'elle vous soit douce et heureuse.